Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le 9 septembre, c'est ma rentrée pour cette année 2025-2026. Les nouvelles du monde, toujours au rendez-vous, ainsi que d'ailleurs l'équipe de Radio Escapade. C'est la 9e année là pour moi. Et ça fait presque bientôt 7 gouvernements du coup, hein, quand même, qui sont passés, 7 premiers ministres. Et voilà, les gouvernements passent, mais Radio Escapade reste en place. Alors aux prochaines élections, n'oubliez pas, bah, votez Escapade, tout simplement.
Compte
364. Bayrou dégage.
Le post-départ peut commencer.
Vous avez peut-être vous aussi fait partie des dizaines de milliers de personnes qui ont fêté hier le départ du Premier ministre François Bayrou avec des pots de départ organisés un petit peu partout devant les mairies en France. À Lyon, on a noté, ça s'est par exemple continué en manif sauvage nocturne, hein, puisque l'appel du blocage de demain, 10 septembre, eh ben, on peut dire que c'était un petit peu le premier rendez-vous tour de chauffe. Voilà, donc pour ce 10 septembre, dans les ronds, on va commencer directement avec ça, les rendez-vous. Et tout d'abord, cette info aussi, pardon, glanée sur le point à Montpellier, on apprend que le préfet de l'Hérault fera déployer justement des drones sur les villes de Sète et de Montpellier. C'est un arrêté préfectoral qui a été pris justement hier. Et c'est donc François-Xavier Lot, le préfet de l'Hérault, qui a autorisé par cet arrêté des captations d'images par drone. Ça sera pour le centre-ville de Montpellier demain, le quartier des Facs, et ainsi que Sète et Frontignan, puisque s'y trouvent là-bas des raffineries qui, elles aussi, risquent d'être bloquées. L'État aurait peut-être donc peur de ce mouvement du 10 septembre, qui aura lieu visiblement malgré le dynamitage, je ne sais pas comment on peut appeler ce qui s'est passé hier. En tout cas, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'a annoncé, hein, il ne laisserait aucun blocage s'installer. Et ainsi donc, dans le département de l'Hérault, le préfet autorise la captation d'images par drone. Et tout cela pour anticiper toute menace, en particulier la formation de manifestations qui iraient à l'encontre de l'événement. Cet arrêté précise d'ailleurs aussi que les manifestations n'ont pas fait l'objet de déclaration préfecture et donc un important dispositif de sécurité sera déployé. Même ambiance au niveau national où c'est environ 80 000 gendarmes et policiers qui sont annoncés pour une mobilisation demain afin d'éviter tout débordement dans le cadre de ce mouvement social bloquant tout. C'est ce qu'a annoncé donc hier soir Bruno Retailleau, lui toujours ministre de l'Intérieur mais bientôt démissionnaire, il ne manquera pas non plus. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence, aucune action, évidemment, de boycott, a-t-il ajouté d'ailleurs sur France 2. Et il devait ce matin se réunir avec l'ensemble des préfets pour justement s'organiser pour demain. Alors, au niveau de l'organisation de demain, si vous n'êtes pas policier, sinon, quelques infos glanées sur les pages, par exemple, de Ici Hérault, hein, le nouveau nom de France 3 Région. Pour Montpellier, un blocage du rond-point des Prés d'Arène est prévu dès 6h du matin. Une manifestation, le grand rendez-vous donc pour Montpellier, c'est 11h au centre-ville à la Comédie. Des barrages filtrants sont prévus au dépôt de carburant de Frontignan, enfin sont en discussion, et une opération anti-consommation devant le polygone de Montpellier. Pour Béziers, un rassemblement prévu à 11h. Là, c'est l'intersyndicale CGT, Solidaire et FSU qui a pris un petit peu la main là-dessus. Pour Ganges, un rendez-vous est prévu à 8h30, 8h30 du matin, au rond-point de l'Europe. Pour ce qui est des rendez-vous dans le Gard, à Uzès à 10h30, rendez-vous à l'appel de la CGT, contre les propositions du gouvernement Bayrou. C'est un mouvement, ça c'est une manif déclarée en préfecture. Et sinon, il y a rendez-vous avant cela, à 8h45, à l'entrée de la zone Carrefour, au pont des Charrettes. Donc ça, c'est pour Uzès. Alès, ça va pas mal bouger aussi. Il y a plusieurs rendez-vous. Alors, 10h devant la sous-préfecture, là, c'est l'intersyndicale qui convie. Mais sinon, dès 9h30, il y a un rassemblement qui s'organisera sur le parvis du cratère. Peut-être aussi à ces moments-là que seront prises des décisions sur la suite de la journée. À Bagnols-sur-Cèze, c'est à 9h devant la mairie, à 8h au Vigan, sur le rond-point des Gilets jaunes. Et à Bessèges, on se lève tôt à 7h, c'est à l'espace Jacques Frison qui est donné le premier rendez-vous. Et on finit avec la ville de Nîmes, où pareil, un rendez-vous a lieu déjà à 7h au stade des Costières. C'est le point de rendez-vous et lieu des précédentes AG. Le lycée Alphonse Daudet sera d'ailleurs lui aussi bloqué à partir de 7h du matin par des lycéens et des étudiants, ainsi d'ailleurs que de nombreux établissements dans toute la France. Le moment fort de la journée pour Nîmes est espéré entre 12h et 14h, avec le plus de monde possible au stade des Costières. Et enfin, à 18h, une assemblée générale aura lieu pour faire le point sur cette première journée et prendre les décisions pour la suite. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui risque de se passer sur les nombreux points de blocage ou de mobilisation de cette journée demain du 10 septembre. On part en mer, ou plus précisément sur les côtes tunisiennes, où un navire de la flottille militante, la Global Soumoud, qui est en route en ce moment vers Gaza, a été endommagé, donc un navire endommagé par une explosion. C'est dans un port tunisien où il était stationné, c'était cette nuit, hein, dans la nuit de lundi à mardi. Ça déclenche une controverse sur l'origine de l'incident, mais les organisateurs de la flottille, hein, ce qui inclut par exemple l'activiste Greta Thunberg, eux accusent directement Israël d'une attaque par drone. Du côté des autorités tunisiennes, on affirme qu'il s'agirait d'un problème technique interne. Greta Thunberg, qui est donc présente sur place, a déclaré sur ses réseaux sociaux « Je me trouve actuellement dans un port tunisien, après que notre bateau, qui transporte de l'aide humanitaire, a été bombardé. Il a été bombardé sur le territoire tunisien. » L'activiste suédoise a ainsi qualifié l'incident d'attaque qui vise à les empêcher d'atteindre Gaza. L'équipage de la flottille explique avoir entendu des bruits similaires à ceux d'un drone avant donc qu'une explosion ne se produise sur le pont avant d'un navire. Le navire s'appelle le Family Boat. Des images sont d'ailleurs diffusées en direct sur les réseaux sociaux et elles montrent des militants qui crient au feu, nous avons été touchés, suite à donc cette explosion survenue à la proue du navire. Voici quelques extraits sonores.
We've been hit by what appears to be a drone and the vessel's on fire. There's a fire in the front deck. Where's the fire extinguisher? The vessel is on fire. We are off the coast of Tunis. It was a loud explosion. The police are arriving. Paddy, it was a massive explosion.
Francesca Albanese, hein, qui est rapporteuse spéciale de l'ONU, qui est justement présente en ce moment en Tunisie pour le lancement de cette flottille, a publié elle aussi des images de surveillance et alimenté donc la controverse. Elle explique « Il y a un historique d'attaque contre la flottille. Il y a des déclarations actuelles contre la flottille de la part d'Israël. » Cette experte donc sur la situation pour l'ONU a ajouté que s'il était confirmé qu'il s'agisse d'une attaque de drone, ce sera un assaut, une agression contre la Tunisie et aussi contre la souveraineté tunisienne. Francesca Albanese avait auparavant qualifié la Palestine d'espoir de l'humanité, lors d'ailleurs du lancement de cette flottille à Tunis. Un incident qui s'inscrit donc dans un contexte de tensions récurrentes, puisque plus tôt dans le mois, les organisateurs avaient déjà signalé la présence de drones au-dessus de leur navire. Là, c'était sur les côtes espagnoles, près de Minorque. Yassemine Adjar, qui est organisatrice du comité Soumoud, avait ainsi expliqué sur Instagram, dans une vidéo, que chaque navire de la flottille était survolé par un drone. On était environ à 90 000 nautiques de l'île espagnole. Ni l'armée israélienne pour l'instant, ni les organisateurs de la flottille ne peuvent confirmer l'origine de ce supposé drone, hein, qui a disparu. Un petit point quand même sur cette flottille, donc qui est en ce moment, vous l'aurez compris, en Tunisie. C'est une flottille pour Gaza qui est venue de Barcelone et qui a accosté au port de Sidi Bou Saïd. C'était ce dimanche 7 septembre, notamment pour se recentrer après des tempêtes. Des personnalités comme la députée française Rima Hassan, la militante suédoise donc Greta Thunberg, mais aussi l'humanitaire brésilien Thiago Avila, ont été accueillis par une foule de centaines de Tunisiens qui étaient réunis sur la plage du port de Sidi Bou Saïd. L'ensemble de cette flottille avec les bateaux tunisiens devrait repartir ce 10 septembre pour Gaza, après deux reports de ce départ hein, depuis Tunis pour des raisons logistiques et aussi des mauvaises conditions météo. Plusieurs autres bateaux sont par ailleurs partis le 7 septembre dernier du port de Gênes en Italie. Gênes, qui est un port et un bastion de la gauche dans la péninsule italienne. C'est la capitale de la Ligurie qui s'est depuis longtemps fortement mobilisée dans l'expédition humanitaire, une ville traditionnellement antifasciste où le militantisme reste fort. Cette ville portuaire a ainsi pu mobiliser donc à sa cause de nombreux syndicats, à commencer par le puissant CALP, le collectif autonome des travailleurs portuaires. Ils ont par exemple déclaré en soutien à la flottille « Si nous perdons le contact, ne serait-ce que 20 minutes, avec nos camarades de la flottille, nous bloquerons toute l'Europe et ce sera une grève générale ». Et quand les dockers de Gênes bloquent, et bien effectivement ça a des implications sur tout le commerce maritime méditerranéen. Par ailleurs, pour ce qui est de la France, où là on est plutôt timide du côté des gouvernants sur le soutien ou pas à cette flottille, une pétition en tout cas circule pour demander justement la protection diplomatique de tous les ressortissants français qui sont à bord de cette flottille. Je vous lis quelques lignes de cette pétition. « Depuis le 31 août 2025, la Global Sumut Flotilla navigue vers Gaza avec à son bord des ressortissants français. » Cette initiative internationale rassemble des journalistes, médecins, juristes, élus et représentants de la société civile de 44 pays du monde dans une démarche pacifique visant à dénoncer le blocus de Gaza et à faciliter l'acheminement humanitaire. Le contexte justifie cette mobilisation. Quatre organismes des Nations Unies ont récemment confirmé l'existence d'une famine dans l'enclave, tandis que la Cour pénale internationale a engagé des poursuites contre certains dirigeants israéliens pour crimes de guerre, notamment Benjamin Netanyahou. Gaza demeure par ailleurs inaccessible aux journalistes internationaux, et les journalistes locaux, j'en rajoute, ont été pour beaucoup décimés. Face au risque d'interception, de détention arbitraire et de viol des droits humains par les forces israéliennes, nous sollicitons votre intervention pour que les ressortissants français bénéficient d'une protection et d'un suivi diplomatique approprié et au plus haut niveau d'intervention, à l'instar des mesures prises par le gouvernement espagnol. C'est donc une lettre adressée directement au président français, qui pourtant avait fait peu de cas de l'interception de la dernière flottille. Où là aussi, Rima Hassan d'ailleurs avait été arrêté par les Israéliens, puis finalement expulsé en France. On change de sujet, quoique certains voient d'ailleurs dans l'offensive d'Israël contre Gaza peut-être des intérêts autre que symbolique, notamment pétrolier, et bien justement les pays pétroliers annoncent ces derniers jours une forte hausse de leur production. Ainsi, la stratégie du « drill, baby drill », c'était le mot utilisé par Donald Trump, ce qui veut dire « fort, chéri, fort », et bien cette stratégie va contaminer les pays concurrents des États-Unis. Ce dimanche 7 septembre, ce sont donc l'Arabie Saoudite, la Russie et 6 autres membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui ont annoncé conjointement une augmentation de leur production, cela pour répondre à la hausse de la production aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Une hausse qui pourrait atteindre 1,65 million de barils de brut de plus par jour d'ici un an, ça fait 1,5% de la production mondiale. Cette décision confirme donc le changement brutal de stratégie amorcé au printemps. Pourtant, il faisait suite à des baisses de production qui étaient consenties en 2023. En ouvrant ainsi les vannes, les pays de l'OPEP renoncent à leur stratégie de baisser la production d'hydrocarbures, cela pour maintenir la rareté et un prix du baril à 80 dollars. Le prix du pétrole se situait hier à 67 dollars. On est donc bien loin du pic de 120 dollars qui avait été enregistré en 2022. Il devrait encore pour l'instant baisser. Cette fuite en avant, même si elle fait baisser le coût du pétrole à la pompe, risque malheureusement de freiner la transition énergétique et donc la sortie des énergies fossiles.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Je vais maintenant vous parler du sort d'oiseaux, notamment de nombreux oiseaux migrateurs qui sont menacés et ça ne va pas s'arranger sur le territoire français. On peut parler de l'alouette, de la caille des blés, du fuligule milouin, ce joli canard, et aussi de la tourterelle des bois. Le gouvernement en effet cédé aux pressions des chasseurs en fixant des plafonds faramineux de prélèvement. Prélèvement, c'est quand on tue un animal, sur de nombreuses espèces. Et le gouvernement a par ailleurs refusé tout moratoire. C'est le journal Reporter qui nous explique un petit peu tout ça dans ses colonnes. Alors on commence avec l'alouette des champs. Le 2 septembre dernier, le ministère de la Transition écologique publie un arrêté qui autorise la chasse aux pantes. Ça veut dire c'est une technique de chasse avec des filets. On appâte d'abord les oiseaux avec le cri de leur conjoint, puis on les attrape avec des filets. Cet arrêté a autorisé la chasse aux pantes de près de 100 000 alouettes pour 4 départements du sud-ouest, car c'est principalement là que ça se passe. Cette pratique donc des pantes, les filets, avait pourtant été interdite par le Conseil d'État en mai 2024, puisqu'elle contrevenait beaucoup à la directive européenne oiseaux. Cette directive oiseaux qui prohibait donc la capture massive sans distinction d'espèces, c'est-à-dire sans pouvoir, par exemple, distinguer les adultes des enfants ou de différentes espèces entre elles. Cette décision du gouvernement est donc d'autant plus choquante que ce petit oiseau, un passereau, dispose d'un répertoire fabuleux de plus de 600 notes. Il est en déclin sur la France. L'alouette des champs a perdu 25% de ses effectifs en France en 20 ans et 50% au niveau européen depuis 1980. Certains chiffres sont des chiffres qui sont avancés par Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a annoncé tenter de contrecarrer cet arrêté. Une autre menace, un autre oiseau, c'est la tourterelle des bois, qui, elle, menacée par la chasse à tir, une chasse qui est suspendue depuis 2021, elle est de nouveau permise de fin août au mois de février. Un arrêté a en effet été publié ce 29 août par le ministère de la Transition écologique, et il permet le prélèvement, on va toujours reprendre leurs mots, de 10 560 spécimens sur tout le territoire pour la prochaine saison. Pourtant, la tourterelle est une espèce protégée qui est classée vulnérable au niveau mondial par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et on peut citer en 2019, c'était la Commission européenne qui avait conseillé aux États membres de suspendre complètement la chasse de cet oiseau, puisqu'à l'époque, la population était en chute libre, moins 82% entre 1980 et 2019. Mais le ministère de la Transition écologique a plutôt préféré s'appuyer sur les conclusions d'un groupe de scientifiques au sein de la Commission européenne qui s'appelle le groupe de travail sur le rétablissement des oiseaux. Et ce groupe a en effet justement observé une amélioration de l'état de conservation de l'espèce en Europe. De fait, elle n'était plus chassée et ça a des effets assez immédiats. Les populations se refont. Ils ont donc conclu qu'il fallait rouvrir la possibilité d'ouvrir la chasse avec des plafonds pour les 4 pays qui chassent cet oiseau. Il y a la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Malheureusement, l'avis de ce groupe d'experts n'est pas contraignant. Et ainsi, le seul pays qui ne l'a pas suivi, c'est le Portugal. Puisque le Portugal a estimé que la reprise de la chasse était prématurée et que c'était trop tôt. C'est d'ailleurs toujours l'avis du président de la MPO, qui rappelle que la tourterelle est aussi menacée, en plus de la chasse, par l'agriculture intensive et la disparition des haies, puisque c'est le lieu où elle fait ses nids. Depuis 2021, dit-il, on maintient le même modèle agricole et on poursuit la destruction des haies. Le milieu naturel n'est pas devenu plus accueillant. Et donc ce quota de presque 11 000 tourterelles chassées par an, ils ont calculé quand même que pour faire respecter ce quota, l'arrêté ministériel a précisé donc que chaque chasseur devrait déclarer immédiatement tout oiseau prélevé, donc tué, sur une application, sur un téléphone. L'appli s'appelle Chasse Adapt. Le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, doute, lui, sérieusement que le quota soit respecté, puisque si on compte les 930 000 chasseurs généralistes en France, ce plafond pourrait être atteint dès le premier jour de chasse. D'autant, dit-il, que peu de chasseurs, à peu près un tiers des chasseurs, utilisent l'application dans leur pratique. Alors si pour la tourterelle des bois, les chasseurs donc, n'ont pas eu besoin de faire pression sur le gouvernement, ça s'est fait de manière législative, ce n'est pas le cas pour d'autres oiseaux comme la caille des blés, le fuligule milouin, le canard siffleur ou la grive mauvie, la sarcelle d'hiver, le canard pilé et autres canards souchets. Toutes ces espèces, si on monte en novembre 2024, la Commission européenne avait enjoint ses États membres à prendre des mesures immédiates pour lutter contre leur disparition et pour assurer leur rétablissement. Ainsi, à l'époque, l'exécutif européen préconisait un moratoire temporaire pour les 4 premières espèces que je vous ai citées et la réduction de moitié des prélèvements, toujours pour les 3 autres. Par exemple, le fuligule milouin, c'est un genre de canard, il a perdu 30% de ses effectifs en 16 ans. Le canard siffleur, lui, la moitié de ses effectifs en 12 ans. La grive mauvie, 19% sur 10 ans. Donc des chutes vraiment colossales. Donc le moratoire était là pour prendre des mesures d'urgence. Et bien tout cela a déclenché la colère de la Fédération nationale des chasseurs, notamment par la voix de son président Willy Schrein, qui a dénoncé carrément une déclaration de guerre de la part de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ils ont mis en place une pétition tout de suite pour exiger l'abandon de ce moratoire. et leur revendication a été très vite reprise par des parlementaires d'extrême droite, mais aussi par des membres socialistes et macronistes du groupe Chasse et Pêche à l'Assemblée nationale. C'est donc sous cette forte pression que la ministre a fait marche arrière le 16 juillet dernier, et elle a proposé à la place donc de ce moratoire des plafonds, mais qui sont très élevés. Ces prélèvements maximum, donc le nombre d'animaux qu'on peut tuer maximum par an, sont excessifs. C'est Dominique Pi qui l'explique. Par exemple, ils ne seront, si on calcule, eh bien, aucun chasseur n'arrive à tuer 15 cailles par jour, ni 15 canards. Donc ce sont des prélèvements qui ne seront jamais atteints en pratique. Les chasseurs utilisent ces prélèvements maximum obligatoires pour se présenter comme de bons gestionnaires qui s'imposent des limites. Mais en réalité, celles-ci n'ont pas d'effet. Il explique toujours que c'est un peu comme si une association d'automobilistes se présentait en champion de la sécurité routière avec des limitations de vitesse à 200 km/h. Voilà, donc finalement, vous l'aurez compris, le gouvernement n'a repris aucune recommandation de la Commission européenne, à l'exception de celle sur la tourterelle des bois, qui est, elle, plutôt favorable aux chasseurs.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Encore un petit peu de nouvelles de l'environnement avec cette nouvelle étude publiée dans la revue Science le 4 septembre dernier, qui nous parle de pollution atmosphérique et qui explique eh bien, que cette pollution en particules fines entraîne un risque accru d'être victime de démence. Selon cette étude, en effet, l'exposition à certaines particules fines présentes dans l'air augmente les chances d'être atteint de la maladie à corps de Lewy. C'est une maladie neurodégénérative qui touche près de 11 millions de personnes dans le monde et 200 000 pour la France. L'étude met en évidence les conséquences d'une exposition chronique aux particules fines PM2,5, c'est la taille des microns de ces particules. Cette étude a été menée notamment à partir de données de millions de citoyens états-uniens. Ces particules sont présentes dans une atmosphère polluée. Elles favorisent l'apparition dans l'organisme d'amas de protéines qui vont ensuite devenir toxiques. Et ce sont ces amas qu'on appelle les corps de Lewy qui peuvent ensuite détruire des cellules nerveuses présentes dans le cerveau et donc créer cette maladie. Ça avait déjà été démontré dans le cas d'Alzheimer que l'exposition à des particules fines augmentait le risque d'être victime de maladies type Alzheimer. Ce sont des maladies neurodégénératives. Avec ce nouveau résultat, le neurologue Xiaobo Mao, qui a dirigé la recherche, appelle donc à améliorer la qualité de l'air. Il explique simplement « L'implication la plus directe de l'étude, c'est que les politiques de purification de l'air sont finalement des politiques de santé cérébrale ». Et voilà, pour cette nouvelle, je passe à la suivante. On part en Indonésie, où le peuple se révolte face aux violences policières et à la corruption généralisée. C'est un hashtag « Polisi Musuh Bersama », qui veut dire « La police est l'ennemi commun ». Un petit peu l'équivalent de « Tout le monde déteste la police chez nous ». Ce hashtag est devenu viral parmi les utilisateurs indonésiens des réseaux sociaux suite à une nouvelle bavure policière. Mais est-ce qu'on peut encore parler de bavure dans ce pays? Vous allez le voir. En tout cas, le hashtag reflète une perception largement répandue, selon laquelle en Indonésie, la police, loin d'être exclusivement garante de la sécurité publique, est avant tout un appareil destiné à protéger les privilégiés et le pouvoir. Une nouvelle vague d'indignation donc, contre la police s'est déclenchée en Inde. Elle a été déclenchée par la mort d'Afan Kurniawan, un jeune conducteur de moto-taxi, un livreur à moto âgé de 21 ans, qui a été écrasé par un véhicule justement de la brigade mobile de la police alors qu'il livrait de la nourriture. Quelques jours plus tôt quand même, des manifestations avaient déjà éclaté à Jakarta, la capitale, pour protester à l'époque contre l'arrogance des députés, qui reçoivent chaque mois des indemnités équivalentes à environ 6 000 $ par mois, alors que le revenu moyen des travailleurs est environ 200 $ par mois avant les impôts. Ils sont quand même bien nourris là-bas, les députés indonésiens. Ce mouvement donc, de protestation constitue de manière générale une dénonciation du fossé qui devient de plus en plus insupportable entre les élites donc, et les simples travailleurs. Et dans cette confrontation, donc, la police n'apparaît pas comme un arbitre neutre, mais bien comme le bouclier qui protège les privilèges des oligarches, en interprétant par exemple toute protestation sociale comme un trouble à l'ordre public, et toute critique du système comme une menace. Incroyable, non, c'est pas chez nous que ça se passerait. En tout cas, comme cela s'était déjà produit lors de manifestations par le passé, la police indonésienne a eu recours à la force de façon excessive pour disperser ou arrêter des manifestants pacifiques, et elle est accusée en plus par bon nombre d'observateurs de divers abus de pouvoir, par exemple des arrestations arbitraires de citoyens qui critiquent la police et sa corruption généralisée. C'est un long article que j'ai pioché dans les colonnes du média The Conversation, qui fait un petit bilan un petit peu sur le contexte justement de ces émeutes, dont vous avez peut-être vu passer des images sur les réseaux sociaux. Si on remonte un petit peu dans le temps, par exemple pour les chiffres, entre juillet 2024 et juin 2025, ce sont des chiffres obtenus par les CONTRAS, c'est la Commission pour les personnes disparues et les victimes de violences, eh bien au moins 602 cas de violences commis par des policiers ont été répertoriés, dont 411 où ils ont fait usage de leurs armes à feu. Au moins 10 personnes ont été tuées, 76 autres blessées, et souvent gravement. Ce rapport affirme aussi que la police a commis 37 exécutions extrajudiciaires, et il rappelle aussi via la tragédie de Kanjuruhan en 2022. C'est à Malang, dans la province du Java oriental, qu'un mouvement de foule a été créé lors d'un match de foot. Il a fait 131 morts et 300 blessés. Et dans ce stade, la police avait utilisé de manière excessive du gaz lacrymogène pour disperser la foule, ce qui a donc entraîné cette bousculade mortelle avec plus de 130 morts. En Indonésie, en tout cas, ces brutalités policières finalement ne semblent pas constituer des cas extraordinaires, mais plutôt des manifestations habituelles du fonctionnement de cette institution. En février, par exemple, la police a arrêté les membres d'un groupe de punk rock qui s'appelle Sukatani parce qu'ils avaient mis en ligne un morceau intitulé « Bayar, Bayar, Bayar », ça veut dire « paye, paye, paye », un morceau de punk qui dénonçait les pratiques de paiement pour service, hein, donc la culture du bakchiche, la corruption persistante au sein des forces de l'ordre, où les citoyens subissent au quotidien justement des extorsions de membres de la police. Dans un sondage, on apprend que 30% des personnes qui ont répondu et qui ont accepté de répondre correctement, eh bien, reconnaissent avoir déjà versé un pot de vin à des policiers, notamment par exemple pour éviter des amendes liées à des infractions routières. Selon Transparency International Indonesia, la police est ainsi l'une des institutions les plus corrompues du pays. Et bien donc là, ces dernières semaines, le gouvernement, au lieu de réformer la police, le gouvernement, avec l'appui du Parlement, est en train de réviser le code pénal, justement d'une manière qui risque de transformer encore plus la police en une institution surpuissante et intouchable au sein du système judiciaire pénal. Si cette révision qui est proposée était adoptée, la police pourrait en effet superviser le travail des autres fonctionnaires qui sont chargés de conduire des enquêtes, par exemple des enquêtes administratives. Cela ouvre donc la porte à des interférences de grande amplitude et remettrait en cause l'autonomie des autres organismes qui sont chargés de l'application de la loi. Ce projet de loi accorde aussi d'ailleurs à la police le pouvoir de mettre en œuvre diverses mesures coercitives qui menacent ainsi les droits de chaque citoyen. Donc des réformes qui sont là pour encore mettre de l'huile sur le feu face à une jeunesse qui visiblement n'a plus grand chose à perdre. En Indonésie, on a environ 270 millions d'habitants. Deux grandes manifestations et émeutes sont donc déclarées depuis la fin du mois d'août pour s'opposer à ce gouvernement qu'on peut qualifier facilement d'extrême droite. À noter par exemple que le 31 août dernier, les résidences d'une ministre et de parlementaires ont ainsi été pillées et plusieurs lieux de pouvoir incendiés. Depuis le début de ce mouvement, au moins 8 morts et 20 disparus sont déjà recensés depuis le début du soulèvement, donc le 31 août. Allez, on va terminer ces nouvelles du monde pour la reprise. J'ai refait un petit tour sur tous les médias que je consulte habituellement pour vous dénicher des articles. Et j'ai vu pas mal de choses intéressantes, mais un peu trop longues ou de fond. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir ce que font les médias indépendants, notamment pendant l'été, il y a des jolis dossiers. J'ai par exemple feuilleté un petit peu un article dans le journal L'Empaillé qui s'intéresse à l'essor des boulangeries paysannes, des boulangeries artisanales dans de nombreux villages et villes de France. L'article s'appelle « Pain au levain et point levé ». Ça re-questionne le rapport à l'alimentation, mais aussi pas mal et surtout notre rapport au travail. C'est très intéressant. Il y a aussi dans les pages de L'Empaillé un court appel que je relaye ici. C'est un petit article qui s'appelle « Se battre pour que vive le planning familial partout ». Le planning familial, une structure qui mène des actions de prévention, d'écoute, d'information et d'orientation depuis plus de 70 ans, est aujourd'hui face à une situation intenable. Dans la Drôme, par exemple, 7 centres de santé sexuelle gérés par le conseil départemental vont fermer, sur les 12 du département, tandis que le planning voit ses subventions amputées de 20%. Dans la région Pays de la Loire, la présidente Christelle Morancet, proche d'Edouard Philippe, a supprimé la totalité des subventions qui sont allouées au planning, touchant par exemple celui du département de la Corrèze. Hein. Il y avait déjà eu un article précédent dans L'Empaillé là-dessus. Les retraits d'agrément aussi se succèdent, hein, puisque ce sont des associations qui sont souvent agréées pour aller intervenir en milieu scolaire, par exemple. Ils empêchent donc les intervenantes ou intervenants d'agir auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Des mobilisations SM partout et le planning national vient donc de lancer une campagne de dons à laquelle vous êtes encouragés vivement à participer. Et je vous donne l'adresse, c'est www.don.planning-familial.org. Voilà. Dans les colonnes de Bastamag, j'ai aussi parcouru en diagonale une interview, un entretien avec l'auteur Nastassia Martin, qui est anthropologue et qui parle de son dernier livre, Les sources de glace. On s'intéresse au sort des glaciers et des montagnes. Pour elle, les montagnes sont des franges qui ont su résister à l'appropriation capitaliste. Aussi, d'ailleurs, dans les colonnes de Bastamag, un autre article qui se passe en Colombie et qui s'intéresse à un journalisme autochtone, lui, au service des communautés à travers différentes radios, réseaux sociaux, face notamment aux violences, ultra-violences des milices et des polices nationales. C'est un article signé Nadège Mazars. Et enfin, dans le journal de CQFD, produit du côté de Marseille, dans le numéro de septembre, un dossier s'intéresse aux jeux vidéo, notamment leur rapport à la société, à la jeunesse et l'engagement politique. Des choses qui nous passent un petit peu au-dessus de la tête quand on n'a pas de cette génération-là. On peut par exemple découvrir l'existence d'un collectif qui s'appelle Afro-Grammeuse, qui tente de décoloniser le jeu vidéo, que ce soit du côté de ceux qui y travaillent ou de ceux qui l'utilisent. Il nous rappelle que 48% des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses dans le monde et même des utilisatrices régulières, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine, voire même tous les jours pour 56% des 16-30 ans. Et on s'intéresse aussi aux origines de ce public, hein, le public non blanc, eh bien lui aussi est tout aussi présent dans la communauté des gamers. Alors pourquoi est-ce qu'on a toujours le sentiment que le jeu vidéo, notamment son industrie et son écosystème, reste la chasse gardée de quelques hommes blancs? Quelques-unes des questions, voilà, que vous pourrez trouver dans le dossier CQFD de septembre, où évidemment on s'enthousiasme aussi bien évidemment pour la rentrée sociale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et en plus, on a un peu de punk à vous proposer. Et en plus, il nous vient d'Indonésie. J'ai pas résisté à aller écouter ce que faisait ce groupe, le Sukatani Band, donc qui ont été arrêtés par la police. Et on va reprendre leur morceau Bayar, Bayar, Bayar. Donc paye, paye, paye pour se quitter. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain ou peut-être demain qu'on se croisera quelque part dans des rues, des ronds-points ou je ne sais où ça va bloquer. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
revues de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.